Nicolas Clémence, vous êtes le fondateur et le programmateur du Plein les Watts Festival qui tiendra les jeudis 14, vendredi 15 et samedi 16 juillet au parc Navaza, au Grand Lancy, dans le canton de Genève. Ce sera la 14e édition déjà, la première depuis 2019. Comment se sont passées ces deux années sans festival ?
Bien, mais relativement bien, puisque ben, du coup on a eu le temps de préparer notre déménagement, puisqu'on passe de la butte de Plein les Watts, qui était notre site historique, pendant 13 éditions, enfin 12 éditions exactement, parce que la première était dans un préau d'école. Ben, là on a eu ces deux années pour préparer notre déménagement dans ce nouveau site magnifique qui est le parc Navaza, entre le Grand et le Petit Lancy.
Racontez-nous ce jour de juin 2007 où vous avez rencontré Nicolas Seny, engagé par la commune de Plein les Watts dans le canton de Genève pour créer des animations d'été à travers le programme En vacances dans mon quartier. Tout a commencé avec lui finalement.
Oui, tout a commencé par ce petit programme d'animation de quartier de Plein les Watts, du service social. Et puis, ben, il trouvait que nous, on venait de fonder l'association Plein les Watts quelques mois avant, une association de musiciens qui cherchaient à se réunir, à pouvoir avoir des locaux de répétition notamment. Et puis, ben, il s'est trouvé que Plein les Watts avait cette idée d'animation et nous, on avait les contacts dans les petits groupes locaux, etc. Et donc, on s'est associés pour créer la première édition de cet événement qui était tout petit, hein, qui était dans le préau de l'école du Pré du Camp. Et on a fait, je crois, 200 spectateurs.
Effectivement, une soirée, trois concerts de groupes locaux, des étoiles plein les yeux, parce que le succès est quand même au rendez-vous. 200 spectateurs dans une cour d'école, pour une première édition, c'est pas mal.
Oui, bah, au moins, effectivement, on a pu présenter certains de nos groupes membres de l'association Plein les Watts. Ça faisait des années qu'on était dans ces milieux-là de concerts, mais plutôt du côté artiste. Et là, de se mettre dans la peau d'un organisateur, ça nous a tout de suite plu. Et du coup, on s'est remis à la tâche dès l'année suivante pour partir sur la butte de Plein les Watts. Et puis, au gré des années, l'association a pris un peu d'autonomie aussi. Et on a pu organiser ça ensuite pendant 12 ans à Plein les Watts, effectivement.
Alors déjà, la deuxième année, 2008, effectivement, on déménage sur la fameuse butte de Plein les Watts. Et on double le nombre de soirées, déjà deux soirées.
Ouais, alors ça, effectivement, il y a eu une croissance assez rapide. On a doublé le nombre de soirées. Il faut savoir que le festival, maintenant, il est que reggae. Mais à l'époque, c'était pas le cas. On faisait varier les styles, hein, d'un soir à l'autre. Et donc là, on avait pu varier le style le vendredi soir en faisant, je crois, rock, la deuxième édition.
Et puis pour cette édition 2008, une tête d'affiche, In a Crisis, qui est donné un de ses tout derniers concerts.
C'est vrai que c'était dans les derniers moments de l'existence du groupe. Après, on a eu ensuite Marc Kelly qui a fait sa carrière solo. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un groupe romand qui prenait vraiment de l'importance en reggae et qu'on a eu de la chance d'avoir dans ces toutes dernières dates.
Alors on le disait, ça grandit vite. Hein, après 200 spectateurs en 2007, puis 1500 en 2008, le Plein les Watts Festival continue sa croissance avec plus de 3000 personnes sur la butte pour la troisième édition et pour la première fois, le montage d'un chapiteau de cirque.
C'est vrai qu'on avait au début des tout petites scènes sous tente et puis on s'est associé ensuite avec l'association Lacho Drum qui monte des chapiteaux. Et donc là, on a pu faire quelques années sous chapiteaux, deux scènes qui donnaient vraiment une ambiance particulière au festival, qui a aussi permis, je pense, de créer un petit peu son identité, sa renommée. Et puis après quelques années, on est passé à des grandes scènes ouvertes pour aussi, je dirais, que le public puisse devant avoir un peu plus de place. Et puis que le son se diffuse un petit peu différemment aussi que sous chapiteau. Et ça nous a permis ensuite de continuer notre petite croissance qui a amené quand même à ensuite des problématiques dont on va peut-être parler après sur la capacité du site en fait.
On va juste s'arrêter un instant, Nicolas Clémence, sur l'association parce que j'ai l'impression qu'elle a grandi un peu en même temps que le festival. Vous le disiez au départ, c'était une association qui regroupait des groupes locaux qui cherchaient des locaux de répétition et des choses comme ça. Assez vite, il y a beaucoup de groupes qui sont inscrits, puis des membres individuels. Il y a eu l'idée de monter un studio d'enregistrement, ça a pris de l'ampleur.
C'est vrai, on a mis un petit moment quand même à réussir à trouver un lieu adapté pour créer ça. On a pu maintenant mettre en place ce local de répétition et studio à Carouge, à la rue Bellon. Et du coup, on a maintenant plusieurs de nos groupes membres qui répètent dedans toutes les semaines. Et ça nous permet aussi de participer à l'aide. Bon, l'association Plein les Watts, c'est l'aide de toutes les manières possibles, hein, aux groupes qui sont membres. Et donc, trouver des concerts, c'en est un. Et puis, effectivement, pouvoir se produire et aussi répéter. Et donc là, on a pu mettre cet outil à disposition des groupes membres.
L'association ne s'occupe pas que du festival Plein les Watts. Vous organisez beaucoup d'autres choses. Depuis quelques années, vous programmez une soirée au festival Voix de Fête, par exemple.
Ouais, on a maintenant, ça fait quoi, 6 ans, je crois, qu'on a ce partenariat avec Voix de Fête. avec lesquels on s'entend très bien, et on a pu effectivement avoir une carte blanche d'année en année sur le festival What's Fet pour proposer un groupe reggae, une soirée reggae. On a aussi l'ambition peut-être les années prochaines de faire une soirée un peu plus importante dans une salle plus grande aussi, avec un artiste peut-être d'une autre ampleur. C'est aussi en projet depuis quelques temps, et on va voir si on arrive à concrétiser ça l'année prochaine.
Vous imaginez en 2007, quand vous vous êtes lancé, qu'en 2011 l'association serait invitée à participer à réfléchir à un projet de salle de spectacle dans un futur quartier, celui des Cherpines. Vous avez été associé assez étroitement à cette affaire.
On a été associé parce que le plan Léotte avait lancé avec la commune de Confignon, mais avec la partie sportive aussi et culturelle, des ateliers de participation sur la création de ce quartier. On était au moment de la modification de zone, à peu près au moment de la votation populaire sur ce quartier. Et puis, il y avait l'envie d'associer les acteurs locaux à la programmation de ce quartier, ce qui se fait maintenant beaucoup dans l'urbanisme. Mais là, il y avait vraiment eu un travail conséquent avec une charte, etc., qui ont été élaborées à ce moment-là. Et donc, nous, on avait le projet, toujours dans la même optique, d'offrir des solutions aux groupe, de monter notre projet de salle de concert. Donc ça a été élaboré en 2011. Ensuite, le temps urbain fait que le quartier a pris aussi les architectes, les urbanistes ont pris le temps de réaliser les planifications nécessaires. Et puis maintenant, les premiers première partie du quartier qui commence à se réaliser avec le relais, et on verra si ce qu'on appelle la pièce D au Cherpines se réalise, se concrétise, qui va contenir toute la partie culturelle et sportive, et si on pourra concrétiser ce projet de salle.
On va revenir à la musique. Vous le disiez tout à l'heure, les débuts du festival Plein les Watts n'étaient pas consacrés qu'au reggae. Le virage se prend en 2013. Qu'est-ce qui a provoqué ce virage finalement ?
C'est à la fois, je dirais, deux choses. D'une part, l'envie du comité d'organisation, des différents responsables qu'on a au sein de l'événement. Je dirais aussi l'envie de voir si qualifier l'événement pouvait amener une dynamique un peu différente. Pourquoi ? Parce que, je vous disais, on faisait deux soirées. Jusqu'en 2016, on a fait deux soirées. Maintenant, il y a trois soirées. Et à cette époque-là, la soirée du vendredi marchait toujours un peu moins. Et donc, on a fait quand même le pari d'essayer de se dire, vu que le reggae marche mieux le samedi, on essaie de faire aussi reggae vendredi, puis on voit ce que ça donne. Et ça a parfaitement équilibré les soirées. Et donc, on a vu vraiment que c'est dans ce style-là que prenait le bouche à oreille, que la renommée s'était faite, que le réseau s'était créé. Plutôt que d'être un parmi tous les festivals qui font un petit peu tous les styles, on est devenu un festival reggae d'importance, même sur le plan européen, puisqu'on a eu après des relations avec des grands festivals, le Reggae Sunska, le Rototom Sunsplash, etc., qui sont des festivals importants en Europe. Et donc ils sont dans un réseau de festivals qualifiés reggae. Et ça nous a tout de suite donné aussi une dimension plus internationale en fait.
Pour qu'on comprenne bien à quelle vitesse a grandi le festival, nouveau record de fréquentation en 2018, on passe à 23 000 festivaliers. J'imagine que ça a des conséquences sur l'infrastructure, la logistique, ça a fait grandir le comité aussi.
Tout a grandi un petit peu en même temps, mais d'une croissance assez rapide quand même. Effectivement, depuis 2016, on a eu notre anniversaire des 10 ans et puis on est passé à 3 soirées. Là, on a tout de suite les chiffres compris l'ascenseur. À la fois des spectateurs qui venaient d'un petit peu plus loin aussi, et puis le bénévolat qui a aussi augmenté un peu en parallèle. Mais c'est vrai que du coup, ce bénévolat qui augmente fait que le bouche à oreille augmente parce que les gens en parlent entre eux. Et donc là, on est arrivé à des chiffres qu'il fallait ensuite effectivement pouvoir assumer sur le site de la Butte, en particulier en termes de transport public, par exemple, puisqu'on a on n'avait que la ligne D qui amenait les spectateurs. Donc il a fallu créer des infrastructures, créer un parking vélo, créer un parking moto. Ensuite, on a créé un camping en 2018 aussi, pour accueillir les spectateurs qui viennent un peu plus loin. Donc tout ça, c'est des infrastructures supplémentaires qu'il faut mettre en place pour répondre à la demande.
Ouais. En 2019, vous créez Radio Plein les Watts. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Dans le comité, on a une ou deux personnes qui s'intéressaient à ce genre de médias, on va dire, et puis qui avaient envie de mettre en place une radio à l'année. Alors c'était sous deux formes. D'une part, des playlists. Donc nous, on fait des sélections à la fois d'artistes genevois, mais aussi reggae, pour gérer, les mettre en avant et puis animer la radio toute l'année. Et puis après, on a des émissions spéciales. On a des émissions soit thématiques, soit des émissions même pendant le festival où on vient raconter à la rencontre des responsables, on vient raconter comment se passe l'organisation de l'événement depuis l'intérieur.
Le Plein les Watts Festival développe chaque année des projets socioculturels ou pédagogiques avec des organismes partenaires qui prennent part à l'événement. Ça a l'air d'être important pour vous aussi, ce lien social.
C'est essentiel dans le sens où, d'une part, il y a pour accueillir autant de monde, il faut aussi faire un petit peu attention à la prévention, à la réduction des risques sur certaines consommations en particulier. Donc, on n'est pas du tout naïf de ce point de vue-là. On met en place des mesures avec des partenaires sociaux spécialisés. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième partie, c'est que ça fait partie du lien social, de l'identité de l'événement. qui amène aussi justement ce succès finalement, hein, parce que c'est tous ces petits éléments qui font qu'on s'y sent bien, on s'y sent en sécurité, on sent que c'est organisé, que c'est bien préparé, et du coup on est libre de pouvoir s'y amuser et flâner et voir les concerts, aller au stand de restauration en étant sûr que tout se passera bien.
Venons-en à cette édition 2022, la 14e, puisqu'on ne compte pas les deux éditions qui ont été annulées. Et pour cette édition, nouvelle date et nouveau lieu. On quitte la butte de Plan les Ouates, c'est le deuxième déménagement. Qu'est-ce qui a motivé ce déménagement ? C'est l'importance du public qui grandit d'année en année ?
C'était principalement ça, c'était que le site de la butte devenait un petit peu restreint par rapport à la demande. Hein. C'était vraiment, il faut aussi rappeler que c'est pas le but du festival était vraiment d'assurer sa pérennité, pas forcément d'avoir un succès à ce point-là. Et donc là, c'est aussi de se rendre compte qu'en fait, en étant un festival prix libre, on peut rentrer gratuitement. Là, on doit répondre à la demande. On n'a pas possibilité d'annoncer un guichet fermé, de dire les prélocations, c'est fini. Voilà.
J'ai envie de revenir un instant sur cette idée de prix d'entrée flexible qui va de zéro à ce qu'on veut. On s'en sort comme ça ? Moi, je suis sûr que les gens jouent le jeu.
Oui, les gens jouent le jeu, sachant que avant on avait simplement une petite boîte à dons à l'entrée, et puis là, en annonçant que c'était prix libre, en faisant des caisses à l'entrée, même si on peut effectivement passer tout droit devant, les gens jouent le jeu. On remarque quand même que y a certaines personnes qui rentrent gratuit par principe, et puis il y a d'autres personnes qui mettent des sommes assez conséquentes. C'est assez disparate, hein, y a pas forcément de règles. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le festival dure en 3 jours. Les gens qui viennent des fois le premier jour mettent un petit peu la première fois, puis les jours suivants considèrent qu'ils ont déjà donné. Ça arrive. On n'a pas beaucoup de recul, hein, avec ce système-là, c'est quand même que la 3e fois qu'on le fera. Donc on voit que sur les 2 premières, en tout cas, ça c'est assez équilibré.
C'est indiscret de vous demander le prix moyen ?
Ça donne pas énormément, parce que on a beaucoup de monde, mais du coup qui en moyenne donne peu, c'est quelque chose comme 2,50 francs par personne. Sur la masse, ça fait quand même tout de suite une petite somme qui nous permet un petit peu de financer l'événement.
Il est temps de parler de la programmation de ce festival. Le 14 juillet, pour les concerts live, y a du lourd là.
Alors là, on a pu avoir une belle programmation qu'on a déjà faite en 2020, mais qu'on n'a pas pu réaliser. En 2021, pareil. Et donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on attend de pouvoir programmer ces artistes qu'on avait effectivement bookés il y a maintenant plusieurs années. Max Romeo avec Julian Marley, avec Etana. C'est quand même maintenant des têtes d'affiche internationales qui font des tournées cette année en Europe.
Alors, quand on est un festival reggae, une tête d'affiche jamaïcaine par jour, c'était quasi indispensable.
C'est pas indispensable, parce qu'on a eu fait pendant très longtemps d'autres têtes d'affiches plutôt francophones d'ailleurs aussi. Hein. Là, on en a encore quelques-unes cette année. C'était nos têtes d'affiches pendant les premières années. C'est aussi une question de coûts, de logistique, d'aspect pratique, parce que faire venir des artistes jamaïcains, quand ils sont en plus comme ça, une quinzaine à voyager, il y a des avions, il y a des hôtels, il y a des visas, des complexités qui peuvent être même des choses de petit ordre. Par exemple, le fait qu'ils arrivent tout avec du matériel qui est à 110 volts, alors que nous, on est en 230. Ce genre de petites choses là complexifie tout de suite un petit peu l'accueil, et donc là de pouvoir faire ces artistes là et d'être une étape de leur parcours, c'est quand même extrêmement gratifiant.
Il y a énormément de groupes et d'artistes suisses, ça veut dire que le reggae se porte bien en Suisse ?
Oui, le reggae se porte bien en Suisse de manière générale. Maintenant, c'est clair que c'est un style un petit peu, un marché un peu plus de niche, hein, que c'est pas aussi médiatisé que certains autres styles. On peut penser au rap ou même encore au rock, qui sont quand même beaucoup écoutés en radio, qui passent beaucoup, avec un vrai public. Dans les artistes suisses qu'on a, on a beaucoup de sound system, donc des DJ qui sont en particulier Genevois. Et là, on a une scène qui est dédiée à ce style-là, la scène sound system, qu'on appelle le Lion's Corner, qui est cette année organisée par le Corner 25. Une association qui a repris aussi la salle Le Groove, avec lesquelles on est partenaire. On fera d'ailleurs des afters chaque soir au Groove, avec des navettes qui amèneront les spectateurs là-bas. Et donc, ils ont été mandatés par le festival pour faire toute une programmation de ces artistes genevois qui se produisent. Et là, il y a une scène extrêmement riche. Ouais.
En moyenne, c'est 4 concerts live et puis des sound systems, c'est ça ?
C'est ça, exactement. On a 2 scènes qui s'alternent, avec chaque fois 2 concerts dessus par soirée, et puis une scène qui tourne toute la soirée avec le sound system.
Je sais que c'est une question difficile pour un programmateur, mais les quelques coups de cœur de cette programmation ?
Oui, c'est difficile, parce qu'on a tout ce qu'on a programmé, on a envie d'y voir, on a envie d'y faire. Bon, je pense que là, d'avoir pour la première fois Julian Marley, un des fils Marley, c'est quand même exceptionnel. J'ai beaucoup d'échos de spectateurs, de bénévoles, du staff qui attendent, même d'autres artistes qui attendent de pouvoir jouer le même soir que Julian Marley. C'est toujours assez exceptionnel. On a peut-être Calipi, qui est un artiste reggae suisse, qui lui est vraiment un artiste montant, qui a des featuring avec des artistes exceptionnels aussi. Et donc là, c'est peut-être le coup de cœur de cette année, c'est de voir ce que donnera son concert à Genève.
Merci beaucoup Nicolas Clémence. Le Plan les Ouates Festival, 14e du nom, c'est du 14 au 16 juillet au parc Navaza, entre le Petit et le Grand Lancy, et c'est à Genève.
Forward, Max Romeo qui sera sur la scène du Plein Les Watts Festival demain soir à 22h45.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Yverdon-Estavayer, les automobilistes perdent toujours un bon quart d'heure entre les tunnels de Pommy et d'Arissoul en direction d'Estavayer.
L'invité.
Lola Nada, vous travaillez depuis plus de 15 ans dans le développement de projets musicaux en Suisse et vous bénéficiez d'un solide réseau de partenaires en Suisse et à l'étranger. Après 12 années passées chez Opus One et Paléo au booking et à la programmation, vous cofondez en 2021 Inouï, la première agence de booking et de communication ayant pour vocation de mettre en avant les musiciennes sur les scènes suisses. Qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas, à vous lancer et à créer votre propre agence ?
Bonjour, en fait c'est parti d'un constat propre à ma situation, en fait, d'être une femme dans l'industrie musicale, effectivement depuis 15 ans, d'avoir évolué dans cette industrie et d'en reconnaître les limites en tant que femme. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah déjà, au niveau artistique, mon regard se portait plutôt sur les musiciennes, donc j'avais envie de les mettre en avant et donc de faire le choix de privilégier ce regard-là. Et aussi sur la question de la représentation aussi des femmes dans l'industrie musicale, les professionnelles dans le milieu, qui sont quasiment inexistantes. Et voilà, j'avais envie de lancer ce challenge et de mettre mes compétences au service d'artistes qui me touchent. Et porter du sens à mon travail.
Lancer une nouvelle agence en pleine pandémie du Covid, c'est risqué, non ?
Voire gonflé.
Oui, c'est un peu gonflé, risqué. Et en même temps, Inouï a été lancé il y a exactement un an. Et en fait, on s'est retrouvé face à des festivals qui cherchaient à programmer des artistes de proximité. Et nous, on avait la chance de démarrer déjà avec un petit catalogue d'artistes francophones. Et en fait, nos premiers bookings ont été Iseult et Camélia Jordana au Montreux Jazz l'année passée. Donc finalement, c'était risqué, mais c'était un pari réussi.
Ça vous a donné raison, finalement.
Ouais, tout à fait.
Pour un coup d'essai, c'est ce qu'on appelle un coup de maître.
Oui.
Vous dites sur le site internet de votre agence qu'elle est née des besoins actuels des artistes et des nouveaux usages de l'industrie musicale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces nouveaux usages de l'industrie musicale ?
Alors oui, tout à fait. En fait, avec mon associé Carole Harari, qui elle est plutôt spécialiste de la communication et de la promotion, et moi plutôt du booking et de la programmation, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait toujours un décalage entre le booking d'une artiste et sa promotion. Et on s'est dit en fait, en alliant nos visions, nos savoir-faire, on pouvait être plus pertinente dans le développement d'une artiste en Suisse. Et donc, aujourd'hui, on voit les grandes boîtes de production étrangères, elles font plus que du booking. Elles font du booking, de l'édition, de la promotion, ce qu'on appelle le 360. Alors nous, à notre petite échelle, on essaye aussi de faire un peu plus que du booking et d'aller un peu plus loin dans le développement des artistes.
Donc vous faites un peu plus que du 180.
On essaye.
La question qu'on peut se poser aussi, c'est comment se fait-il que personne n'y ait pensé avant? Personne n'avait fait le même constat, le même état des lieux que vous?
Probablement que oui. Après, il y a des agences en Suisse qui font les deux. Je pense à Two Gentlemen qui fait Label et Booking. Nous, on a aussi une approche effectivement féministe et aussi une approche envers les artistes qui est très bienveillante, qui est beaucoup à l'écoute.
Mais c'est vraiment cette approche-là dont je parle, en fait.
Oui. Alors, effectivement, on a eu beaucoup de demandes d'artistes, aussi beaucoup d'artistes suisses, qui sont venus vers nous avec plein d'espoir dans la naissance de cette agence. Mmh. Et c'est vrai qu'elles étaient contentes d'avoir notre retour, nos compétences et aussi notre oreille et notre oreille bienveillante. Donc, oui.
Visiblement, quand on voit les noms d'artistes que vous représentez, il y avait une vraie attente, hein, Clara Luciani, Suzanne, Ize, Emma Peters, Oshi, et on est loin d'avoir tout le monde. Comment est-ce que vous les avez convaincus?
Comme vous disiez en début d'interview, moi j'ai travaillé quand même plus de 12-15 ans dans l'industrie musicale, et donc j'ai un réseau assez important de d'agences qui finalement me connaissent bien et connaissent mon travail et qui en fait m'ont suivi dans cette aventure.
Oui, mais la concurrence est rude, hein, il faut quand même faire sa place, c'est pas si simple, vous êtes modeste.
Mais il y avait un rapport de confiance.
Il y avait clairement un rapport de confiance. Et puis, il y avait aussi, tout le monde trouvait ça assez ambitieux et culotté. Puis, il y avait un espèce de respect aussi sur ce choix-là qu'on faisait. Et sur l'envie aussi de rejoindre une agence qui a des valeurs telles que Inouï.
Alors, votre agence s'engage à créer sur la durée un rapport de confiance, de transparence, de bienveillance entre toutes celles et ceux qu'elle est appelée à côtoyer. La bienveillance, nous en parlions hier avec le sociologue Lucien Delay, c'est une notion qu'il faut rappeler.
Ah oui, clairement. Et puis dans l'industrie musicale, la bienveillance, elle est pas tout le temps présente.
On l'oublie souvent.
On l'oublie. Et en fait, faut pas oublier que derrière les artistes, c'est des êtres humains. Et qui travaille, c'est pas un métier facile d'être artiste. On change tous les jours de lieu, de prestation. On n'est jamais avec sa famille, jamais chez soi. Donc ça aussi, je pense qu'il faut être à l'écoute et puis pouvoir poser ce regard-là humain.
Oui, ne pas savoir dans quelle ville on est, ça arrive de temps en temps. Moi, je me souviens de Charlebois à Genève qui a dit bonsoir Bruxelles. Ça a eu un certain succès. Vous représentez essentiellement des artistes féminines, mais pas que. Comment choisissez-vous les garçons que vous représentez? Il y a Eddy de Pretto, Nicolas Maury et quelques autres.
Eh ben, en fait, c'était une vraie réflexion qu'on a eue avec mon associé de se dire, oui, on veut que ça soit féministe, mais on veut aussi que ça soit inclusif. Et on pense aussi que les garçons ont des choses très intéressantes à dire sur la musique, mais aussi dans un esprit de modernité, en fait. Aujourd'hui, on manque clairement encore de diversité et de modernité sur les scènes suisses. Et en fait, c'est tous les artistes que vous venez de citer. Je rajouterai encore Pierre Demar, qui est, à mon avis, aussi un artiste qui va bientôt monter, qui sont des artistes, en fait, qui ont un propos... Pas forcément engagé, mais moderne et puis différent. C'est pas une masculinité dominante, qu'ils incarnent.
Mais finalement, votre agence a des valeurs et vous engagez aussi des artistes qui ont les mêmes valeurs que vous.
Ouais, c'est bien résumé, tout à fait.
Okay. Billy Bird, comment est-ce que vous l'avez rencontré?
Alors, c'est elle qui nous a contactés. Je crois que c'était aussi il y a un an à peu près. Qui disait, oh super, j'adore votre agence. Est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais vraiment pouvoir rejoindre Inouï. Puis on a bu un café, on a rebu un café, on a discuté. Et au final, on s'est dit, allons-y.
Dis-moi. On s'aimait comme des dingues, aujourd'hui nous en sommes là. Plus d'euphorie ni d'ivresse, juste une odeur de tome à froid. On s'emmerde, on s'enlise, j'en peux plus qu'on s'éternise. C'est plus nous, c'est complexe. Et de ta bouche, rien me vexe.
Électrique, Billy Bird, l'une des artistes représentées par l'agence Inouï. Billy Bird qui sera en concert au festival Jolie Vue à Chèbre ce vendredi et à l'église Saint-François de Lausanne le 9 septembre.
La gestion des déchets, voilà une affaire sérieuse dans le cadre d'un festival. Donatiana Mann nous présente celle qui en a eu la charge et la responsabilité au festival Il y a de l'eau.
Le métier du jour.
Alors, je m'appelle Laura, je suis la responsable des déchets de la propreté à Il y a de l'eau, au festival à Prévrange. C'est très global, on parle pas uniquement de nettoyage, c'est tout ce qui est le tri des déchets, le recyclage, la réduction des déchets et le nettoyage du festival en sa globalité. Pour faire ça, je ne suis pas toute seule, j'ai toutes les 2 heures dans l'après-midi, puis toutes les heures, 2 à 4 personnes qui viennent et qui m'aident. Moi, je les brief, je leur explique ce qu'il faut faire. Et puis, on va ensemble vider les poubelles, nettoyer les tables, vider les cendriers, nettoyer les toilettes et faire en sorte que tout soit toujours propre et que les gens se rendent compte de rien. J'aime beaucoup ce poste parce que j'ai l'impression qu'on peut éviter au maximum les déchets et puis les recycler s'il y en a. Aussi, de nettoyer régulièrement, c'est pas dévalorisant en soi, c'est pas une tâche que je trouve ingrate. Je sais le plaisir que ça peut apporter aux festivaliers d'être là, de pouvoir poser les coudes sur une table qui colle pas la bière. À la fin du festival, on fait bien attention à tout enlever avant de rendre le terrain, évidemment, parce qu'on a bien envie qu'on nous le remette à disposition l'année d'après. Chaque année, on garde tout ce qu'on a pu construire, on le garde d'année en année parce que c'est toujours utile. Donc, en grandissant, on a de moins en moins de petits bricolages et du coup de chutes de bois, de plastique, de métal. Mais on fait attention à tout amener à la déchetterie au cas où il y en aurait. On récupère tout ce qui est à jeter et puis on le jette nous-mêmes en fait, bêtement. Et après à la fin, on va tous ensemble faire un tour du terrain, ramasser les derniers mégots, les petits bouts de plastique qui traînent et toute la merde qui est là, un peu invisible mais quand même présente. Dans la globalité, je trouve que les festivaliers sont très propres. Je pense qu'on met aussi assez de poubelles à disposition pour qu'ils puissent l'être. On retrouve toujours une chier de mégots et c'est vrai que c'est assez rageant de se dire il y a des cendriers partout, il y a des poubelles partout. Le monde des festivals a eu distribué des éco-box pendant des années. Toutes les personnes qui fument pourraient en avoir sur elles. Malgré ça, on retrouve à chaque fois des mégots. C'est un peu dommage. Ce qui est un challenge pour le festival, à mon avis, c'est d'avoir suffisamment de poubelles pour que les gens les utilisent, mais qu'elles s'intègrent bien dans le paysage. À chaque fois que je me dis, tiens, je vais en mettre une ici parce que c'est proche du bar, c'est proche de là où les gens y s'assoient, ben, en fait, c'est pas beau. Une poubelle, c'est pas beau. Et si on veut que les gens sachent à quoi elle est destinée, on peut pas vraiment la décorer. Ou alors, j'ai pas eu l'imagination pour, on peut volontiers me donner des idées. Mais intégrer les poubelles pour qu'elles soient sympas dans le paysage et en même temps qu'on voit que c'est les poubelles et qu'on les utilise et qu'il y en a suffisamment.
Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'englue sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal. Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse, les prés verts et sous les déchets, la plage. Commission vole sur mon avenue, tombe la consommation. Je me balade en zigzag, un bonbon sous la basket. Si pour vous c'est une blague, alors changez de planète. Tombe jusque devant ma porte les kilos d'âmes égoïstes, tout ce que le vent m'apporte. Je n'ai pas fini ma liste. Je me balade comme je peux entre les vieux emballages et quelques pas hasardeux, mais sous les déchets la plage. Sous les déchets la plage. Sous les déchets la plage. Abîmé, tous ces usages ancestraux. Je me balade en fuyant les cortèges de mégots. Je m'en sors en vacillant, vous trouvez ça rigolo. Tombent les bouteilles sur ma route. C'est pas que la faute aux autres, y'en a tellement qui s'en foutent. C'est quand même un peu la nôtre. J'ai arrêté mes balades, ma planète fait naufrage. Mon monde est tout malade, et sous les déchets la plage. 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 Sous les déchets la plage.
Onésia avec son titre Sous les déchets, la plage. Lola Nada, cofondatrice de l'agence Inouï, est notre invitée.
Est-ce qu'on défend différemment des artistes comme Guédré et Laura Cahen, par exemple? On est quand même pas du tout dans le même genre.
On n'est pas dans le même genre musical, mais on est quand même avec deux artistes qui sont engagés.
Oui.
Donc, on les défend de la même manière, c'est-à-dire des projets qui nous tiennent à cœur, qu'on aime. Après, c'est surtout vers quelle salle, vers quel organisateur on va. Et forcément, peut-être Guédré, elle sera programmée dans des clubs différents que ceux de Laura Caen.
Alors, Isolde, que vous représentez, a annulé toute sa tournée, notamment son passage à Paléo, à l'Estival Open Air aussi, pour cause d'épuisement. On se dit quoi quand on est une agence mince, ou alors c'est la bienveillance qui prime?
Bah, on se dit que c'est un métier qui est difficile et puis que c'est bien qu'elle s'écoute et qu'elle prenne soin d'elle pour qu'elle puisse revenir en meilleure forme et puis espérer justement qu'elle puisse refaire des gros festivals et puis être à même de pouvoir être bien sur scène et bien avec son public.
Mais ça pose une vraie question, le fait qu'Isolde ose dire vraiment publiquement « je suis épuisé, je n'en peux plus », j'ai le sentiment qu'avec cette période Covid, ces confinements, il y a pas mal d'artistes qui sont un peu au bout du rouleau psychologiquement et psychiquement. Vous le sentez aussi?
Oui, clairement, mais je pense que c'est aussi assez général, c'est pas que les artistes.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que, en fait, c'est aussi la question de la santé mentale des artistes devient un vrai sujet. Et je pense que c'est aussi, grâce à des artistes comme Isolde et d'autres, qu'ils le verbalisent, qu'ils en parlent de manière transparente. Récemment, Pongo aussi s'est trouvé dans cette situation-là, où elle était à bout, puis voilà, là, elle a annulé aussi sa date au genre.
Oui.
Je pense qu'il faut vraiment en parler et puis prendre soin de ces artistes.
Sur votre site, vous parlez du logo de l'agence qui a été dessiné par une petite fille de 5 ans et qui symbolise une douce imperfection qui reflète l'authenticité et la singularité de votre agence. En acceptant cette imperfection, qui est aussi la nôtre, dites-vous, nous œuvrons pour la célébration des différences individuelles. L'imperfection assumée, c'est pas courant dans le milieu de la musique.
Non, c'est pas courant, mais c'est agréable de se le dire, ça met moins de pression. Et puis c'est une réalité aussi, on pense aussi que les artistes qu'on défend, en fait, c'est pas forcément des artistes qui correspondent aux standards. Et en fait, c'est par le fait qu'elles ne correspondent pas aux standards qu'en fait elles font leur succès. Et c'est aussi cette vision-là qu'on a envie de défendre.
Alors, une des imperfections avérées de ce milieu, c'est la sous-représentation des artistes féminines, notamment dans les festivals, ce qui a été récemment souligné par Sophie Unger, et on voulait traiter aussi ce sujet avec vous.
Ah bah, c'est très bien d'en parler, je pense que plus on en parle, plus les choses, j'espère, vont changer. Oui, c'est une vraie problématique. Là, j'ai vu vos confrères de la radio suisse allemande mentionnaient qu'il y avait 2 festivals en Suisse qui avaient la parité dans leur programmation. Il y a un gros festival en Espagne, le Primavera Sound Festival, qui, lui, a la parité. Mais c'est vrai que ça reste, en fait, un sujet de discussion. Souvent, l'argument avancé par les programmateurs, je dis programmateurs parce qu'en fait, c'est que des hommes quand même qui sont à la programmation des festivals, c'est de dire, mais moi, je programme pas en fonction du genre, je programme en fonction de ce que j'aime comme musique.
On parlait du festival Plein les Watts tout à l'heure, oui. Qui est un festival 100% reggae.
Oui.
Il n'y a quasi pas d'artistes féminines reggae.
Je pense qu'il y a plein d'artistes féminines reggae. Alors, c'est pas
ma spécialité. On ne les connaît pas du tout, alors.
Je pense qu'elles ne sont pas défendues, pas mises en avant. Et je pense aussi que le programmateur doit faire un travail pour aller les chercher.
Ce n'est pas un problème d'offre et de demande, finalement.
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un problème de sexisme systémique, de se dire, en fait, d'accepter qu'en tant que programmateur, notre regard va forcément se diriger peut-être plus vers des musiciens, par le fait que ça fait des années que c'est comme ça. Et c'est un travail à aller chercher ces musiciennes, à aller les découvrir et à aller les mettre en avant.
Des artistes qui cherchent un tourneur, un booker, une agence de promotion, il y en a beaucoup en Suisse, il y en a de plus en plus, et ailleurs. Combien vous en refusez chaque mois? Beaucoup.
Non, on n'en est quand même pas encore là, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de jeunes artistes qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on arrive à un stade avec Inouï où on a beaucoup d'artistes en développement et on a envie de mettre notre énergie pour qu'elles puissent éclore et se développer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément encore accepter beaucoup, beaucoup de développement sans mettre en péril notre engagement vers ces artistes. Mmh.
Mais est-ce qu'il faut avoir aussi quelque chose en plus pour être représenté par Inouï, comme November Ultra, par exemple, on peut la citer?
Ouais, avec plaisir. C'est une artiste qu'on a découverte il y a un an et qu'on affectionne particulièrement. Quand on parle de bienveillance, on peut dire November Ultra, c'est le même mot.
Ok.
Et effectivement, je ne sais plus que où on en était, parce que je suis troublée par November Ultra.
Oui, mais
est-ce qu'elle avait quelque chose en plus? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de la signer?
C'est une singularité. C'est vraiment ça, et c'est vraiment ce qu'on recherche chez les artistes qu'on représente. Et je pense que chacune et chacun qui fait partie du roster ont une singularité.
Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le roster?
Ah, pardon. C'est le catalogue d'artistes qu'on défend chez Inno.
Voilà.
C'est tous les artistes qu'on représente.
C'est un terme de jargon du métier.
Oui, pardon.
Juste un mot, parce que vous disiez, des artistes en développement, c'est important d'en avoir, mais j'imagine qu'il faut trouver un équilibre économique aussi. C'est-à-dire, des artistes en développement, c'est très bien de les aider, de les développer. C'est affreux ce que je vais dire, mais ça rapporte pas tout de suite. Donc, il faut avoir un espèce d'équilibre entre des noms comme Clara Luciani ou d'autres, qui font la balance.
Alors oui, tout à fait. En fait, ce qu'on espère, c'est qu'on mise, donc on investit du temps et de l'argent sur le développement pour espérer qu'un jour, effectivement, chacune puisse devenir une Clara Luciani bis. Mais c'est vrai que sur, je sais pas, 10-15 artistes sur lesquels on investit du temps, bah peut-être il y en a une qui sort si on a de la chance. Donc oui, économiquement, c'est un modèle très fragile, le développement et le booking d'artistes en règle générale.
Alors votre agence est née l'année dernière, vous êtes deux fondatrices. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous avez envie de vous agrandir un les projets?
Alors,
Parce que le milieu de la musique ne cesse d'évoluer. Donc, vous, comment est-ce que vous voyez évoluer pour la suite?
Alors, c'est vrai qu'on a créé Inouï, effectivement, pour le sens que Inouï porte, dont on a déjà parlé. Et puis, il y a aussi l'envie de compter dans l'industrie musicale. Donc, l'avenir, c'est de pouvoir investir dans ces artistes, c'est-à-dire produire peut-être des concerts, produire une soirée Inouï.
Ça serait génial.
Voilà, ce serait extraordinaire. Mais on brainstorm depuis quelques mois là-dessus. J'espère qu'on arrivera à quelque chose de satisfaisant et puis proposer quelque chose de bien pour le public.
Il est l'heure de passer un coup de fil à l'un des artistes du festival Plein les Watts qui commence demain au Parc Navazza de Lancy dans le canton de Genève.
Le coup de fil.
Et le groupe de reggae Green System Band se produira au festival Plein les Watts ce samedi 16 juillet à 22h15 sur la scène Mystic Mountain. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à vous.
C'est Christian qui est avec nous.
C'est bien moi, c'est Christian.
Alors en tant que groupe Genevois, être à l'affiche du festival Plein les Watts, est-ce que ça a une signification particulière pour vous?
C'est surtout une terrible chance qu'on a de participer à ce festival Plein les Watts. Après 2 ans un petit peu de disette, on va dire, musicale, là on est très 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 contents. C'est un festival qui est juste magique, qui grandit d'année en année avec des vibes incroyables, un échange humain incroyable aussi, et vraiment, c'est une belle structure avec beaucoup d'émotions derrière, positives, et donc ouais, c'est vraiment un honneur de participer.
Alors le groupe est né à la fin des années 90 à Genève. Il y a aujourd'hui 9 membres, si je suis bien informé.
C'est exactement ça.
Comment est-ce que cette aventure a démarré?
C'est effectivement un groupe qui a bientôt 25 ans et dont le noyau fondamental est encore là. Et c'est des potes de cycle qui aimaient la musique et qui ont décidé de créer le Green System. Et puis après, il y a eu des gens qui se sont intégrés à tout ça, dont moi. Et voilà, ça fait à peu près 20 ans maintenant que je suis là et qu'on partage des trucs de fou.
Voilà. Bon, alors donnez-nous envie d'aller vous voir au Festival Plein les Watts. Sur scène, Green System, ça ressemble à quoi?
Alors, à quoi ça ressemble Green System? Justement, venez nous voir. Je plaisante. Non, mais c'est avant tout un échange incroyable avec la musique, les gens. C'est des transmissions d'émotions, de good vibes, comme on dit. Et voilà, ça vaut le détour. Après, je reviens là-dessus, mais après ces 2 ans un petit peu de diète, tout ça, on a besoin de cet échange avec les gens. Et le Plein les Watts Festival nous offre ça, quoi. Donc, venez nous voir.
Oui, on va venir vous voir. Mais pourquoi reggae? C'est incroyable avec le reggae, c'est que ça ne vieillit pas, ça se démode pas.
Alors, je suis très content de vous l'entendre dire. C'est très bien. Moi, ça me va. Non, effectivement, j'ai pas l'explication exacte, mais voilà, je pense que le reggae, c'est une musique vraie, quoi. Je pense sûrement comme toutes, mais voilà, pour nous, elle a vraiment un sens particulier. Et puis, elle a un bon message, des belles vibes. Et et que le reggae puisse continuer le plus longtemps possible.
Max Romeo est l'une des têtes d'affiche du festival. Vous avez eu d'ailleurs l'occasion de faire sa première partie. Quel souvenir est-ce que vous gardez ?
Quel souvenir on garde une rencontre incroyable avec un grand monsieur, une histoire, une bible du reggae.
Une légende.
Exactement, ouais, légende. Quelqu'un de très humble, de très souriant, de très juste, de très... vraiment une très très belle personne, et au-delà de sa musique qui est fantastique aussi. Hein. Donc un très très grand monsieur, quoi.
Belle carrière discographique hein, pour Green System. Le dernier opus en date est sorti en octobre, il s'intitule Outlines. Comment s'est construit cet album, et surtout comment est-ce que vous avez réussi à convaincre des guests comme Luciano ou Ken Booth?
Alors effectivement, on a profité de cette fameuse période de disette, Covid oblige, on s'est dit on profite. Alors on a mis en place des sessions de répétition, on s'est vu, chacun amène un petit peu son univers musical, chacun amène un peu ses vibes, et puis en jam, on construit les musiques, on a réussi à construire un album de 16 titres-là, on est très très fiers de pouvoir le présenter. Et puis effectivement pour les feats, donc
les featuring,
Luciano et Ken Booth, featuring, voilà, donc avec Luciano, grand monsieur du reggae aussi, ça s'est fait par l'intermédiaire de Little Lion avec le label Evidence Music, avec lequel on travaille depuis un petit moment déjà. Et puis pour Ken Booth, c'était à la base un concert privé, grâce à Steve, merci Steve. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à faire aussi un concert avec lui à l'Undertown, il y a quelques années, où vraiment un échange incroyable, aussi une personne très humaine, très solaire. Donc on a vraiment pu profiter de ces petites rencontres du parcours pour justement oser demander le featuring.
Alors, en termes d'enregistrement, ça s'est passé comment? À distance ou il y a une partie de vous qui a fait le déplacement?
Alors pour les featuring, non, on a fait à distance. Effectivement, okay. Ça c'est peut-être la petite frustration. Peut-être pour le prochain album, on fera.
Non, mais c'est bien pour l'empreinte carbone.
Voilà, exactement, bien vu. C'est bon, j'ai pas mieux comme réponse.
Alors on rappelle que depuis plus de 20 ans, votre groupe compte plus d'une centaine de concerts. C'est produit en première partie d'artistes internationaux tels que Horace Andy et de Twinkle Brothers. Il y a bien d'autres aussi artistes. C'est quoi votre meilleur souvenir d'opening act?
Ouh là 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 là.
La question difficile à cette heure-ci.
Quelle question? Ouais, j'ai pas pensé à cette question.
Est-ce qu'il y a un bon souvenir tout simplement, Christian?
Alors un des bons souvenirs, moi je pense que je vais revenir sur Ken Booth, où vraiment on a pu faire le backing band en fait, hein, jouer avec lui sur scène, et ça nous a permis de rencontrer un homme fantastique, une musique incroyable, de travailler des morceaux inoubliables, et de partager une vibe incroyable à l'Undertown, voilà.
Merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous serez ce samedi au Festival Plein les Watts à Genève sur la scène Mystic Mountain à 22h15. Et vous serez également le 20 août au Festival Octopod à Mérin dans le cadre de la soirée Reggae Soul.
Merci beaucoup.
C'est exactement ça. Et c'est moi qui vous remercie en tout cas.
Arena poverty in our brains.
Green System Power of Love, Green System sera au plein les Watts Festival samedi à 22h15 sur la scène Mystic Mountain.
Merci à Lola Nada d'avoir accepté notre invitation, à Isabelle Barthes et John Hasselbacher pour la réalisation de cette émission, à Anne-Laure Duparc, attachée de production, Donna Sienaman pour le reportage au Festival Yadlo et Willy Dezélu à la programmation musicale.
Demain, nous irons à Estavayer-le-Lac pour la 15e et dernière édition du Festival Swing in the Wind.
Vous écoutez la première, il est 20h.